au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes mardi, c'est le 11 novembre. Oh, quelle journée! Ouais, ben on a été pris, puis on paraît qu'il y aura encore de la neige pour dimanche. Ça commence rough cette année. À l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, il sera question du ministre Jean Boulay qui pourrait imposer le baillon pour limiter les moyens de pression à la STM. Avec nous également Agathe Soriol, présidente du comité organisateur du marché de Noël de l'Assomption qui se tiendra cette année du 27 novembre au 23 décembre. Également, Laura Vergara, elle est chargée de programme au Crédil. On va parler des Journées québécoises de la solidarité internationale. Gilbert Gagnon et Philippe Richard seront avec nous. Il sera question de la toute nouvelle place du souvenir à l'Assomption. Également, Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawini et Jean-François Champoux, le PDG de la série Saint-Michel-des-Saints. Là, on va parler du monde municipal là, qui est en beau maudit après le gouvernement Legault, le premier ministre François Legault. Mais tout d'abord, petit rappel de base sur des conseils de sécurité. Il faut toujours le rappeler. Il y a présentement 46 420 clients toujours privés d'électricité dans Lanaudière. Lanaudière a été une des régions les plus affectées par cette tempête et par les pannes d'électricité. Utilisation des appareils de secours, génératrices et barbecues, ces équipements sont destinés à une utilisation à l'extérieur uniquement, loin de toute ouverture, porte, fenêtre ou encore prise d'air. Et leur usage à l'intérieur, même dans un garage ouvert, est proscrit en raison du monoxyde de carbone. Barbecue dans la maison, là, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est sur le perron, sur le balcon que ça se fait le barbecue, là, si vous voulez. Vous n'avez pas d'électricité, vous voulez souper, là. Barbecue à l'extérieur, puis on chauffe vraiment pas avec ça. Bon, c'est pas une bonne idée. Monde municipal et celui de l'industrie forestière qui monte aux barricades au lendemain de l'annonce du nouveau plan de match économique là, du gouvernement Legault. François Legault qui affirme totalement que, notamment que la moitié là, des emplois de l'industrie forestière disparaîtront à court terme. Et c'est pas un nouveau régime forestier là, qui sauvera ses travailleurs. Et François Morin a eu l'occasion de s'entretenir là-dessus avec la préfète de la MRC de Matawini, Isabelle Perrault.
Isabelle Perrault, déclaration pour le moins surprenante de la part du premier ministre François Legault. Il va jusqu'à prédire la perte de 30 000 emplois dans le secteur forestier, mentionnant du même souffle que ces emplois pourraient être intégrés au grand projet d'Hydro-Québec. Est-ce qu'on a l'impression que François Legault a baissé les bras, a capitulé devant les Américains?
Ouais, face aux Américains, puis oui, face à la réforme du régime forestier aussi. Là. C'est un peu, ça a été un peu étrange la façon dont ils ont annoncé ça. Il n'a pas invité les communautés forestières à une discussion, à un état de situation. Au contraire, un peu avec des désinvolture, ils disent allez travailler pour Hydro-Québec. Là. Ça veut dire vider des villages là, de façon importante là, de ses ressources humaines actives et vives. Donc, non, c'est une drôle d'annonce. Puis c'est comme si effectivement il avait jeté la serviette en disant les tarifs, on trouvera pas d'autres façons de travailler avec le reste du Canada, par exemple, ou avec d'autres pays, avec la transformation, deuxième et troisième transformation des produits de la forêt non plus. C'est comme faites d'autres choses, puis
Il faudrait pas oublier que les projets d'Hydro-Québec, une fois qu'ils seront réalisés, ce sera terminé, ces gens-là vont devoir se trouver un autre travail de toute façon.
Oui, effectivement, c'est des emplois qui sont temporaires. Puis, tu sais, dans quelle ampleur aussi seront ces travaux-là, de quel type de spécialité de main-d'œuvre ils auront besoin. Bon, c'est sûr qu'ils auront besoin de camions, tout ça, mais il y a autre type de formation. Les gens doivent avoir d'autres formations aussi. Donc, c'est un peu, il n'y a pas de plan en tout cas. Ça, c'est ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de plan. Donc, comment que les gens peuvent se préparer à ça? Comment on sait dans quelle régions les travailleurs pourront être mobilisés, on le sait pas. C'est un peu étrange comme annonce. Tu sais, ce qu'il faudrait, c'est de s'asseoir avec les communautés forestières puis qu'on fasse un état de situation. Puis tu sais, les communautés forestières sont spécialisées, sont professionnelles en foresterie. Ils en ont déjà, et quand il y a eu des pseudo-consultations pour la loi 97, il y a beaucoup de communautés qui s'étaient mobilisées, entre autres à la MRC Matawinie, mais dans d'autres MRC aussi. On avait parlé de forêts de proximité. Les gens n'auront pas plus besoin des produits de la foresterie au Québec puis au restant du Canada, là. Donc, il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en place. C'est un peu un constat d'échec, là, on dirait, de la part de François Legault.
Et il y a Mark Carney qui est allé quand même d'une certaine déclaration qui pourrait peut-être être porteuse d'espoir, c'est que on va devenir nos meilleurs clients.
Ben oui, c'est ça, exactement. Puis on le sait, hein, le commerce interprovince n'est pas efficace et fluide, là, on va le dire comme ça. Donc, je pense que ce serait vraiment le moment là, d'avoir un état de situation générale, nationale sur la foresterie, puis trouver des solutions, puis trouver des partenaires et les amener à la table de discussion.
Parce que le temps commence à presser quand même, là. On connaît la situation de la Syrie Saint-Michel où c'est vraiment pas facile. Il y a plusieurs entreprises également, même majeures, Kroger entre autres, là, qui commencent à manifester certaines inquiétudes. Faut faire plus que des discours, là. Faut vraiment agir.
Ben, tout à fait. Puis là, le premier ministre vient de dire un peu, ben, il y a rien à faire, aller travailler ailleurs.
Bon, c'était la préfète de la MRC de Matawinie, Isabelle Perrault, qui réagissait à cette déclaration choc de François Legault. Je vous rappelle, le premier ministre Legault qui affirme notamment que la moitié des emplois de l'industrie forestière vont disparaître à court terme. D'autres réactions, François Morin qui a eu l'occasion de s'entretenir cette fois avec le PDG de la Syrie à Saint-Michel-des-Saints, Jean-François Champoux.
M. Champoux, la déclaration d'hier du premier ministre à l'effet qu'il prévoyait la perte de 30 000 emplois dans le secteur forestier, que c'était pas un nouveau régime qui allait sauver les travailleurs, est-ce que ça donne pas un peu l'impression que le premier ministre a baissé les bras?
Ben, actuellement, là, quand on voit le premier ministre dire que le nouveau régime n'allait pas sauver les travailleurs, ça, faut y donner raison, là. C'est une question de délai qui fait en sorte qu'il peut pas en avoir un nouveau, mais... baisser les bras, je trouve ça un peu inquiétant ce matin quand on dit qu'on a une industrie qui, pendant la COVID, est un service essentiel. Tu sais, les Québécois ont besoin de nos produits, ont besoin de tout la commodité qu'ils peuvent apporter. Qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai le pressentiment ce matin qu'on va avoir une balade des mal cités là, dans les prochaines heures.
C'est-à-dire?
Ben, regardez, ça va... Moi, je pense que ce matin, on a la chance d'entendre le premier ministre préciser ses dires. Puis, si on a la bonne compréhension, puis c'est parce qu'il veut amener en place les programmes pour maintenir les régions, supporter les régions dans les difficultés qu'ils ont aujourd'hui. Mais son dire n'aura pas été sans rien, mais c'est très inquiétant ce matin, ce qu'on entend.
Parce que ce qui a été dit hier, entre autres, c'est que une bonne partie de ces emplois-là pourraient être, entre guillemets, recyclés pour être envoyés à Hydro-Québec. C'est quand même des emplois temporaires.
Hydro-Québec, là, ça a vraiment sauvé l'ensemble des régions du Québec. L'industrie forestière, là, ça fait 150 ans qu'on est dans notre région. On en a vu passer diverses sociétés hautes, industries hautes. Puis la seule chose qui est sûre, c'est que l'industrie forestière, à chacune des crises, le lendemain est là.
Quelle solution à court terme ou à moyen terme on pourrait mettre de l'avant pour justement là, revitaliser le secteur et faire en sorte qu'on ne soit pas autant dépendant là, de l'économie américaine?
On a là, on a toujours eu une tendance à travailler de la même façon là, avec l'industrie forestière. Puis nous, si on prend l'exemple de Saint-Michel-des-Saints, là, ça fait plus de 2 ans et demi, 3 ans qu'on est sur un projet de deuxième transformation. Juste vous donner un exemple, suite à l'envoi de plus de 150 personnes au chômage, on en a rappelé 40 dans la nouvelle usine pour un autre marché qui est l'Italie. Fait qu'il faut diversifier nos sous-produits, mais le marché américain va toujours être le marché des matériaux de construction. Ça ne changera pas, ça. C'est l'environnement d'affaires qu'il faut changer. c'est pas le marché.
Il faut quand même essayer de faire comprendre ça également aux premiers responsables de l'autre côté de la frontière.
Ben, regardez, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des mandats de 4 ans. Ils peuvent pas rester là après ça. Fait que, tu sais, actuellement, là, c'est un jeu de patience. Faut prendre le temps. Faut pas dire n'importe quoi comme qu'on a entendu hier soir. Puis faut prendre les bonnes décisions. Puis, tu sais, faut jamais oublier de quoi, là. C'est les régions qui ont amené la CAQ au pouvoir. Puis ce matin, là, il y a la chance de préciser ses dires pour s'assurer que ça ne s'aille pas les régions qui l'envoient chez eux l'année prochaine.
Voilà, c'est le PDG de la Syrie Saint-Michel-des-Saints, Jean-François Champoux. Il est 16h16, c'est aujourd'hui le 11 novembre, jour du souvenir. Dans un moment, on vous emmène du côté de l'Assomption, qui inaugurait sa nouvelle place du souvenir.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct.
Chaque hiver, des familles réalisent trop tard que leurs parents n'est plus en sécurité à la maison. Au Manoir La Tourelle, les aînés profitent de l'intimité de leur studio avec les services de repas, d'entretien ménager et des soins adaptés. Nos places sont limitées, pensez-y maintenant. Visitez manoirlatourelle.com ou appelez le 450-271-1037 pour planifier une visite. Pour un milieu de vie chaleureux et sécuritaire.
Après les lunchs, le soccer, puis le ménage, ben j'ai mon voyage. Puis ça tombe bien, parce que Super C t'accueille à bord du concours J'ai mon voyage. Cours la chance de gagner l'un des 5 crédits de voyage de 10 000 $. Pour embarquer, t'as juste à acheter un produit participant puis présenter ta carte moi à la caisse ou en ligne. C'est le temps de troquer la boîte à lunch pour la valise. Puis manque pas ton vol, le concours prend fin le 19 novembre. Aucun achat requis, 18 ans et plus, détails et conditions au superc.ca. Hey, c'est super, Super C.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Roch-de-la-Chigan, Saint-Barthélemy, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Élisabeth.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Les chansons américaines, on est bien capable de s'en passer.
La Naudière PM, Société.
La ville de l'Assomption a maintenant sa place du souvenir en cette journée du 11 novembre. Il s'agit d'un nouveau mémorial qui est dédié aux anciens combattants. Un projet de 70 000 $ qui a été porté par des citoyens, également par l'administration municipale. Et Régent Turgeon a eu l'occasion de rencontrer Gilbert Gagnon de la société Jacques Degé et Philippe Richard qui est artiste concepteur de l'œuvre.
C'est un monument qui remplace, c'est un second monument. Nous en avions déjà monté un en 1995, donc il y a une trentaine d'années. Cette pièce-là a été, s'est détériorée avec le temps. Il y a quelques années, on a fait le projet de remplacer l'ancien et avec l'aide de Philippe Richard, d'autres personnes, aujourd'hui, 30 ans plus tard, on peut présenter à la population une œuvre d'art, un monument, un mémorial là, qui va faire l'attention de tous les assomptionnistes. Et je dirais même un peu plus, je pense que faut s'attendre à ce que cette œuvre-là soit connue, diffusée à travers le Québec. Je pense que c'était à cette hauteur-là. C'est vraiment unique à voir. Je dirais que nos anciens combattants devraient être fiers là, de ce qui était fait à l'Assomption.
Il n'y a pas des tonnes de mémorials comme ça dans la Naudière pour rendre hommage aux anciens combattants. Ça fait aussi la particularité de cette nouvelle pièce.
Effectivement, il y a un monument à Joliette, il y a un autre monument à Mascouche ou Terrebonne. Je pense que c'est tout. Ça nous fait plaisir d'avoir cette particularité-là chez nous. Et faut dire que sans qu'il y ait beaucoup là, de... Je ne sais pas si à l'Assomption on se démarque par le nombre d'anciens combattants. J'ai pas vu de chiffres là-dessus, mais il y a quand même eu des gens, plusieurs personnes là, qui ont participé aux guerres, qui ont fait partie des forces militaires canadiennes. Je pense que c'est une caractéristique de notre milieu là, d'avoir servi lorsque nos gens ont été appelés.
La place du souvenir fait aussi une place, on peut le dire, aux femmes qui ont collaboré là, à l'effort de guerre.
Effectivement. Malheureusement, les données ne sont pas disponibles sur le nombre de personnes de l'Assomption. Mais on peut dire, par la proximité de Saint-Paul-l'Ermite, là, aujourd'hui Repentigny, que plusieurs de nos femmes, que nos filles, nos mères de famille ont participé là, au fonctionnement de cette usine de munitions. Selon de mémoire, il y aurait eu jusqu'à 20 000 personnes, surtout en grande partie des femmes, qui ont travaillé là, au fonctionnement, qui ont assuré la production de munitions qui ont servi sur les champs de bataille à Pécou.
Donc, ce 11 novembre est encore plus historique que par les années passées.
Effectivement, pour nous cette année, parce qu'on a eu un nouveau monument, je pense qu'on a créé un second intérêt, on a ravivé là, l'intérêt là, de nos concitoyens à cette cause-là. Et on va poursuivre là, évidemment à chaque année le 11 novembre pour souligner là, avec tous nos autres collègues là, du Québec et du Canada cette fête-là.
Philippe Richard, artiste concepteur du nouveau mémorial aux anciens combattants à l'Assomption, qu'est-ce qui vous a inspiré?
Ce qui m'a inspiré, ben, écoutez, quand on regarde le monument, d'abord ces deux stèles qui sont verticales, et ça représente le chiffre 11, le nombre 11. Alors le 11, c'est que c'était le 11e jour du 11e mois à la 11e heure, c'était en 1918, la journée de l'armistice qui est devenue le jour du souvenir. Alors c'est ce que j'ai voulu mettre comme symbole, c'est ce que je voulais que ça représente. Ensuite de ça, le monument est fait en acier corten, c'est-à-dire que c'est un alliage de trois matériaux, mais c'est surtout que ça prend la couleur, la rouille, c'est très tendance au niveau artistique. Moi, ce qui est important, c'est que ce matériau-là ne nécessite pas d'entretien et la durabilité, ça peut être 120 ans. Le symbole du monument comme tel, ça représente le nombre 11, je l'ai expliqué, mais le soldat comme tel, ben c'est un monsieur tout le monde, un ouvrier puis qui s'est retrouvé à la guerre. La guerre est finie, il a déposé les armes, il rentre chez lui. C'est fini, c'est la paix. La colombe justement symbolise la paix. Elle a dans son bec un coquelicot rouge. C'est une vie qui est partie. Et à côté, on a les noms de ceux qui sont morts au combat sur une plaque. Et du côté gauche, en dessous, on a le nom de ceux qui y ont été, qui en sont revenus. Il y en a 76 qui venaient de l'Assomption, un petit village de 2000 habitants, même pas à l'époque. Moi, c'est un message que... Ce que je voulais, moi, c'est que... Je suis un peintre, hein. Quand je suis devant un paysage, ben, je peins ce que je ressens. Ce que je voulais, c'est que les gens, quand ils passent devant ce mémorial-là que j'ai dessiné, que j'ai pensé, en tout cas... Et ce que je voulais, c'est que les gens ressentent une émotion. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai vu pas mal de gens qui sont passés devant puis ils m'ont dit qu'ils étaient émus. Et voilà, l'objectif est atteint et c'est en hommage aux anciens combattants. Ils le méritent.
C'était Philippe Richard, artiste concepteur de cette œuvre, que ce mémorial qui est érigé au parc Jacques Cartier, là, qui est maintenant rebaptisé Place du Souvenir du côté de l'Assomption. C'est situé sur le boulevard L'Ange Gardien à l'angle de la rue du Portage. On vous invite à aller faire un tour.
Lanaudière PM. Communautaire.
Le Comité régional d'éducation pour le développement international de Lanaudière va tenir le 25 novembre au cinéma RGFM de Joliette une soirée spéciale dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. On va présenter le film Les campements qui plonge au cœur d'un soulèvement étudiant en réaction au génocide à Gaza. Et François Morin a eu l'occasion de s'entretenir avec Laura Vergara, qui est chargée de programme éducation à la citoyenneté mondiale au Crédule.
On tient donc une activité quand même spéciale en dehors du ciné-répertoire du cinéma RGFM. Présentation spéciale d'un film qui parle du conflit en Palestine.
Oui, voilà, c'est ça. Ce film-là est présenté en fait dans les cadres des Journées québécoises de la solidarité internationale. C'est une campagne qu'on mène chaque année pendant les mois de novembre, puis ben, on aborde des enjeux globaux d'actualité. On trouve que c'est important en fait d'aborder la question de la situation en Palestine, du génocide à Gaza. Puis c'est pour cela qu'on a choisi ce film-là. Je pense que c'est l'opportunité, l'occasion pour aborder la question avec les personnes qui...
Parlez-moi justement du contenu du film-là. Qu'est-ce qu'il raconte?
Le film plonge en fait au cœur des mobilisations étudiants, des campements qui sont tenus, qui sont érigés dans les différents campus universitaires, et notamment à l'Université Columbia. Aux États-Unis, mais c'est ça, on voit en fait tous les mouvements d'étudiants qui sont solidaires à la cause palestinienne. Puis en fait, à travers ces documentaires-là, on voudrait en fait visibiliser toutes ces mobilisations solidaires, puis également faire remarquer également qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup de campus universitaires qui se sont mobilisés, des étudiants qui continuent encore à se mobiliser pour dénoncer l'investissement de certains universitaires. De certaines universités dans les cadres du soutien financier ou pour l'invasion ou l'occupation de la Palestine.
On peut pas quand même mettre de côté le fait que le mouvement pro-palestinien, qui est légitime, a quand même suscité là, la grogne. Il y a eu quand même... du tiraillement là, au sein de la société.
Oui, c'est sûr. Je pense qu'avec n'importe quel conflit, on dirait que les gens ont tendance à peut-être prendre position, ou ils se sentent qu'ils doivent prendre position après auprès d'un côté ou d'un autre. Mais on trouve que c'est important qu'on puisse aborder la question sous un angle plus humain, puis montrer en fait tous les dégâts qui peuvent causer en fait les différents conflits chez les sociétés, ou comment ça peut nuire en fait juste comme le fait d'exister, comment ça peut toucher également les droits humains, un peu des droits qu'on a acquis quand même, puis qu'on s'est dit qu'on allait respecter, puis malheureusement c'est pas le cas avec les génocides à Palestine.
Au risque de se répéter, c'est qu'on veut passer un message aux Lanaudoises et Lanaudois que de comprendre, on peut effectivement participer au changement.
Oui, c'est ça. Il faut en fait commencer par comprendre les causes du conflit, ou l'historique aussi derrière tout ça, puis de mieux comprendre les contextes dans lesquels cette situation se vit présentement, puis que en fait que les gens puissent se mobiliser, puis soutenir également les actions solidaires qu'on peut avoir auprès de cette communauté, cette population.
Parce que d'autant plus que c'est un conflit quand même qui date de la nuit des temps, là, et c'est difficile à comprendre.
Oui, voilà, c'est ça. C'est déjà quelque chose de complexe au niveau de l'histoire, mais en même temps, aujourd'hui, on sait que à partir du 7 octobre, on sait que les choses se sont rendues un peu plus difficile en fait pour les personnes, puis c'est important en fait de comprendre quand même qu'il s'agit d'un génocide, puis qu'il c'est pas nécessairement un conflit, une guerre, mais c'est vraiment l'invasion puis le génocide des Palestiniens qui se vit présentement à Gaza.
Bon, voilà, c'était Laura Virgara qui est chargée de programme éducation à la citoyenneté mondiale au Crédil, en vous rappelant que le cinéma RGFM projettera le 25 novembre prochain, là, dans le cadre d'une soirée spéciale des Journées québécoises de la solidarité internationale, là, un film qui s'appelle Les Campements.
Est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, tout d'abord, je vous parle de la 40 Ouest à la hauteur de Charles de Gaulle. On signale un véhicule en panne sur l'accotement de droite. La voie de droite est retranchée dans le secteur. Le prudence, c'est en direction ouest. Direction ouest, 40, c'est un peu dense. Secteur du boulevard Henri Bourassa. La traversée est facile vers la rive nord. Repentigny, ça se passe très bien, le 40 Est. Pont Charles de Gaulle, accès facile par Sherbrooke et Notre-Dame, 25 Nord. Oui, ça va très bien actuellement du côté de Laval, ainsi que Terrebonne. Le pont Sophie-Masson, on traverse aisément la rivière des Mille-Îles et finalement, autoroute 640, c'est simple dans les deux directions entre la 25 et la 40. Les nouvelles dans un instant.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Après les lunchs, le soccer, puis le ménage, ben j'ai mon voyage. Ça tombe bien, parce que Super C t'accueille à bord du concours J'ai mon voyage. Cours la chance de gagner l'un des 5 crédits voyage de 10 000 $. Pour embarquer, t'as juste à acheter un produit participant puis présenter ta carte moi à la caisse ou en ligne. C'est le temps de troquer la boîte à lunch pour la valise. Puis manque pas ton vol, le concours prend fin le 19 novembre. Aucun achat requis, 18 ans et plus, détails et conditions au superc.ca. Hey, c'est super, Super C!
C'est donc bien beau de la neige, Pierre, mais ça commence difficilement. Là. Disons qu'une tempête qui va laisser des souvenirs, on peut dire.
Ça commence un peu tôt aussi. Oui, oui. Actuellement, la première grosse neige, c'est vers la fin novembre. Alors, mm-hmm. On verra quel genre d'hiver on aura. Mais il y a 46 157 Lanaudois qui n'ont pas de courant depuis plusieurs heures. Ce sont dans les MRC de Dautré et de l'Assomption où on retrouve le plus de pannes. Et leur établissement va prendre un certain temps compte tenu qu'il y a beaucoup de petites pannes à réparer.
Particulièrement le secteur de l'Assomption, là, je voyais que ça a été vraiment difficile aujourd'hui. Mm-hmm. On a déjà dépassé d'ailleurs les quantités de neige là, pour le mois de novembre.
Oui, ça permet de dépasser les précipitations moyennes pour un mois de novembre. Et Pierre Corbin d'Hydrométéo nous dit qu'il y a encore de la neige à venir.
On a maintenant un total de 25,8 cm de tombée au mois de novembre, alors que la normale est de 21,4. Pour les prochains jours, on prévoit encore quelques centimètres de neige fondante ou de neige mercredi et jeudi, jusqu'à l'arrivée d'un autre système potentiellement intéressant là, pour le milieu ou la fin de la fin de semaine. Donc, ça sera à suivre de ce côté-là. Des mélanges ou de la neige pourraient suivre là, pour dimanche prochain.
Décourage, lui.
Bien le potentiellement intéressant.
Oui, potentiellement intéressant. On peut peut-être parler d'une dizaine de centimètres pour dimanche. Là. Et on parlait de Repentigny. Le maire de Repentigny, d'ailleurs, qui est furieux contre Hydro-Québec.
Ah, c'est carrément... Il a fait une sortie en règle contre Hydro-Québec aujourd'hui parce que Repentigny est affecté par de nombreuses pannes, pas nécessairement à cause de la neige. Et il y a eu, dans certains secteurs, 9 pannes depuis l'été dernier. Et M. Dufour interpelle ses collègues élus et la population à contacter leurs députés pour se plaindre.
Bon, maintenant, François Legault qui répond à ceux qui l'accusent d'abandonner l'industrie forestière.
Oui, il persiste et signe aujourd'hui. Les tarifs de 45 % imposés sur le bois d'œuvre canadien feront perdre jusqu'à 30 000 emplois à court et à moyen terme. C'est pourquoi il lance encore une fois un appel aux travailleurs de se recycler dans l'industrie minière ou encore chez Hydro-Québec.
On va créer des bons emplois, entre autres, grâce à Hydro-Québec, grâce au secteur des mines, dans les minéraux critiques. Je veux dire aux travailleurs qui le souhaitent, là, parce qu'on ne forcera pas personne, les travailleurs qui vont peut-être perdre leur emploi, ben on va mettre en place des formations pour se requalifier dans d'autres secteurs.
Et évidemment, quand on parle d'industrie forestière, dans la Naudière s'inquiète là, plusieurs employeurs et employés. Là.
Oui, c'est la grogne dans la région. Les élus n'entendent pas lâcher prise et on va écouter ce que François Morin a préparé pour nous.
Les déclarations de François Legault lors de l'annonce de sa nouvelle stratégie économique ont de quoi surprendre. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ben, l'industrie du bois est complètement ignorée. Puis mettez-vous à la place des travailleurs qui voient le plan, là, puis il n'y a rien alors que c'est une ressource qui peut être valorisée de toutes sortes de manières. Puis c'est comme si du côté du gouvernement, il n'y a pas de réflexion. C'est pas grave.
La préfète de la MRC Matawinie, Isabelle Perrault, est d'avis qu'il y a urgence d'une rencontre au sommet.
Ce serait vraiment le moment là, d'avoir un état de situation générale, nationale sur la foresterie, puis trouver des solutions, puis trouver des partenaires.
À la Scierie Saint-Michel, où on table depuis 2 ans sur un projet de deuxième transformation, le PDG Jean-François Champeau a ce message pour le premier ministre.
C'est les régions qui ont emmené la CAQ au pouvoir. Il y a la chance de préciser ses dires pour s'assurer que ça ne s'aille pas les régions qui l'envoient chez eux l'année prochaine.
François Morin, CFNJ Nouvelle.
Il n'a pas envoyé dire. Et l'ex-député du Bloc québécois dans Terrebonne pourra poursuivre sa campagne de sociofinancement.
Oui, Nathalie Saint-Pierre-Desgraniers donc pourra poursuivre sa campagne et elle veut se rendre jusqu'en Cour suprême. C'est le bureau de la commissaire aux élections qui en a décidé ainsi après la plainte qui a été portée par le Parti libéral. La candidate bloquiste, faut-il le rappeler, a perdu par une seule voix contre Tatiana Auguste. Elle tente d'amasser 40 000 $ jusqu'à maintenant. Elle en a amassé 14 000.
Et finalement, la place Carl Tremblay ne sera pas inaugurée cette année.
Non. Il y a le mauvais temps, mais il y a aussi des retards dans les travaux. Donc, l'inauguration aura lieu le 8 mai 2026, ce qui a fait dire au maire Sébastien Nadeau, j'aime la neige, mais un peu moins en novembre.
Ouais, c'est ça. Je pense que Miss Météo a complètement là, déstabilisé oui, là, les plans de la ville de l'Assomption. Merci, Pierre. Salut. Il est 16h38.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM. Affaires.
Oui, justement, on pourra faire de bonnes affaires du côté de l'Assomption puisque le marché de Noël sera de retour pour une 17e édition. C'est un des plus beaux, là, faut le dire. Et c'est du 27 novembre au 23 décembre prochain. Il y a pas moins de 65 exposants qui seront sur place. Et Régent Turgeon a rencontré Agathe Soriol, la présidente du comité organisateur.
Madame Soriol, déjà une 17e édition pour le marché de Noël de l'Assomption. On le dit, on le répète, la tradition est bien établie.
Oui, je crois que les bien établis, bien ancrés dans le milieu assomptionniste, ça prend du temps. Ça se fait pas dans les premières années, ça. Il faut que ça s'enracine. Je sais pas. T'sais, 17 ans, c'est encore jeune. Mais on n'est même pas encore, dans le fond, on est encore ado, là. T'sais, on n'est même pas encore majeur, mais on va l'être l'année prochaine. Mais blague à part, oui, ça s'enracine année après année. Puis cette année, avec tout ce qui vient en même temps que le marché de Noël, la 17e édition, la place Carl Tremblay qui va être inaugurée, Cité Mémoire qui va être inaugurée bientôt, ben c'est des richesses, là.
À la base, le marché de Noël, on dit que c'est une façon de promouvoir des valeurs. C'est ça qui est important aussi, au-delà de l'aspect commercial.
Oui, c'est ça, parce que nous, dans le fond, Oui, il y a des choses qu'on peut acheter au marché de Noël, mais ça se fait dans un esprit de vouloir partager avec les gens. D'abord, premièrement, hein, les gens qui viennent, les exposants, ils viennent présenter leurs produits qu'ils font eux-mêmes, qu'ils ont eux-mêmes créés, eux-mêmes cuisinés, etc. Et puis, mais en même temps, on le fait dans un décor, une ambiance extrêmement festive. Fait que on n'est pas au centre d'achat, on s'entend là.
On parle de produits 100% québécois et d'achat local, oui. Ce qui nous amène à parler de 65 exposants, dont 20% sont encore des nouveaux cette année. C'est un élément important, ça.
Oui, très, très, très important. Parce qu'on veut faire, on veut avoir du renouveau à chaque année. Et puis, bon an, mal an, il y a des gens qui quittent pour toutes sortes de raisons. Fait que nous, ça nous fait de la place. On engrange à ce moment-là, on va faire des nouvelles découvertes, on va chercher des nouveaux exposants. Puis on sait que, tu sais, on cherche la qualité, là, c'est toujours ça notre... objectif, c'est d'avoir de la belle qualité en place. Puis je pense que cette année, c'est mission accomplie.
Vous avez parlé tantôt dans votre exposé de nouveautés au niveau des bijoux, notamment des friandises africaines, de la pintade. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant.
Exactement, c'est ça. Alors, en plus, c'est que justement, l'offre, elle est riche, mais elle se diversifie. Alors, pour nous, là, c'est extrêmement important. On en a pour tous les goûts, dans le fond. Puis quand les gens viennent au marché de Noël, la dernière chose qu'on veut entendre, c'est « Ah, ben c'est toujours pareil ». Non, c'est pas toujours pareil.
Et là, on varie aussi cette année au niveau de l'animation, là. On parle de jeux de lumière et tout ça. Il y a un enrobage, là, qui se fait.
Tout à fait. Le décor, on l'a voulu prestigieux. On a voulu investir dans nos infrastructures de décor parce que ça ajoute toujours ça à un marché de Noël. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a des marchés de Noël partout au Québec. Veux pas. Les gens comparent, regardent, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Bien, nous, on a tellement une belle place. Tu peux pas rêver mieux, là, pour faire un marché de Noël qu'ici, là. Alors, on a voulu vraiment mettre ça beau.
Et quand on parle de Noël, on parle d'un défilé du Père Noël puis une journée de la famille.
En fait, c'est ça. La journée de la famille, c'est une tradition au marché de Noël de l'Assomption. Ça a toujours lieu à peu près au début, milieu du marché de Noël. Puis cette année, ça ajoute à notre journée de la famille qu'on avait établi la date, le défilé du Père Noël. Fait, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est la journée de la famille. Quoi de mieux qu'un vrai défilé? Alors voilà.
Est-ce qu'on doit s'étonner qu'au fil des ans, depuis 17 ans, il soit passé 1 million de personnes au marché de Noël de l'Assomption?
Et probablement plus. On s'est comme arrêté un petit peu à 1 million parce que, dans le fond, on évalue qu'à peu près à chaque année, c'est 50 000 personnes. Si on calcule 17 ans, là, ça fait plus que ça. Là. Mais disons qu'on reste conservateur parce qu'on les compte pas tous un à un. Fait que on estime que c'est quand même beaucoup de monde, tu sais.
Et ce qui fait beaucoup le succès aussi du marché de Noël, d'abord la présence de 200 bénévoles, mais des commanditaires qui s'impliquent année après année, puis c'est des gros joueurs, là.
Oui. Bien, en fait, c'est ça, là. C'est que on a une petite communauté d'affaires ici à l'Assomption. On n'est pas comme des grosses villes, là, comme Terrebonne, Repentigny, Joliette, où il y a des gros parcs industriels, il y a beaucoup des grosses communautés d'affaires. Mais nous autres, ici, on a des institutions qui sont vraiment des institutions de marque. Et puis, c'est pour ça qu'on en a beaucoup de petits partenaires. On a des petits, on a des grands, mais on a beaucoup de petits qui s'impliquent. Alors, donc, ça, pour nous, là, c'est une grande richesse, là.
Les plus gros joueurs, là, justement, qui sont vos partenaires, faudrait les nommer, quand même.
Oui, ben oui, alors, on va nommer Desjardins, bien entendu. On va nommer IGA Leblanc Forté. On va nommer Family Prix. On va nommer... ma foi, je veux tellement pas en oublier.
Le cégep, le collège. La ville elle-même.
Sans la contribution de la ville, on serait pas là, là. Ils sont très généreux envers nous. Finalement, il y a d'autres entreprises qui nous donnent un bon coup de main. On a plusieurs petits commanditaires comme des Dunton Rainville, des Maggie je les ai pas toutes en tête, malheureusement, là, mais il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup.
Les gens veulent savoir les dates, là. Madame Surieux, c'est toujours encore...
23 décembre.
Je vous repose la question parce que je n'ai pas mis le micro à la bonne place.
Alors, on ouvre le 27 novembre Et puis, ça, c'est un jeudi. Hein? Fait que, le marché de Noël est ouvert du jeudi au dimanche, du 27 novembre au 23 décembre. Exceptionnellement, cette année, le marché sera ouvert les 22, 23 décembre, qui sont un lundi et un mardi. Le dernier week-end, c'est 6 jours en ligne.
Une autre belle période des fêtes en perspective?
Oui, je l'espère, en tout cas. Oui.
Voilà, c'était Agathe Soriol, la présidente du comité organisateur du marché de Noël de l'Assomption. 16h45, dans un instant, Jacques Plante.
Bingo! Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 9 novembre. Gagne 400 $ avec la ligne DG Yvon Saint-Onge de Trois-Rivières. Une carte achetée à Lavaltrie au dépanneur Bussière. Jannick Pelland de Saint-Charles-de-Boromy remporte 2000 $ avec sa carte pleine, achetée au IGA C&C Le Thor. Tout comme Joanne Rivet de Joliette, grâce à sa carte achetée au dépanneur Carab. Quant à la deuxième chance, 600 $, elle a été remportée par Ginette Grégoire de Saint-Félix, qui s'est procuré sa carte chanceuse au métro Boucher. Tous les dimanches matins à 10h05, 5000 $ à gagner avec les trois jeux au Super Radio Bingo de CFNJ. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ, section Super Radio Bingo.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Ménage Providence, votre partenaire de confiance pour une propreté sans bon sens. Vous rénovez? On nettoie. Après construction ou rénovation, confiez-nous le ménage et profitez de votre espace sans souci. Suivez-nous sur Facebook et appelez Ménage Providence au 450-750-9912. Oui, 450-750-9912.
Chaque hiver, des familles réalisent que leurs parents n'est plus en sécurité à la maison. Au Manoir La Tourelle, nous offrons des studios chaleureux avec repas et entretien ménager inclus. Visitez manoirlatourelle.com pour un milieu de vie chaleureux et sécuritaire.
Les membres de la coopérative funéraire de Matawini-Montcalm sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle le mardi 25 novembre 2025 à 19h au 2545 rue Eugène-Marsan, Sainte-Julienne. Il y sera présenté le rapport annuel ainsi que les états financiers. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet au cfmm.coop.
À CFNJ. Voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Salut Claude, bonjour tout le monde.
Le ministre Jean Boulet qui pourrait imposer le baillon pour limiter les moyens de pression à la STM dans cette fameuse grève qui est une patate chaude pour la nouvelle mairesse.
Ouais, c'est face au refus de Québec solidaire, le ministre est donc contraint. Ce qu'il a fait cet après-midi, c'est de déposer un préavis pour le dépôt d'un projet de loi concernant l'entrée en vigueur de la loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout.
Puis là, à matin, là...
C'est la 14.
Ce matin, là, les citoyens montréalais étaient pris en otage en raison de cette tempête de neige. C'était un bordel total à Montréal ce matin. Puis moi, je me suis posé une question par rapport à la loi sur les services essentiels. Mm-hmm. Je me souviens qu'il y avait... cette loi-là disait qu'on devait assurer le transport public aux heures de pointe du côté de Montréal. Là, c'était dans des nombreuses grèves des années 80. Et, bon, ce que j'apprends, c'est que malgré les inconvénients pour les usagers, le tribunal administratif du travail a jugé que les services essentiels offerts actuellement à la STM sont suffisants pour pas compromettre la santé et la sécurité de la population. Voilà. Par contre, là, si t'as besoin de te rendre, rapidement à l'hôpital, ben là, appelle l'ambulance, c'est ça.
Ouais, tu sais, le problème, pour juste terminer là-dessus, la loi 14, ce qu'il faut dire, c'est que cette loi-là a déjà été votée à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Elle devait entrer en vigueur à la fin du mois de novembre, le 30. Là, comme le conflit perdure, ça n'a pas l'air d'avancer. Il y a beaucoup de pression qui vient de plein de côtés. Le ministre dit, bon, on va devancer cette loi 14-là. Il doit avoir l'assentiment de tous les partis à l'Assemblée nationale.
Mais ce ne sera pas le cas de Québec solidaire.
Et Québec solidaire a dit non. Alors là, il a déposé ça.
Moi, ce qui m'a... C'est pour ça qu'il imposerait le baillon.
Oui, puis le baillon, pour que la loi 14 soit devancée, il faut dire que le projet de loi n'a pas pour effet de mettre fin à la grève. Mais c'est plutôt de garantir davantage d'heures par rapport à l'exemple que tu viens de donner. C'est donc d'étirer les heures de service pour les usagers de transport collectif.
Et ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des journées où il n'y a pas eu de service du tout, du tout, du tout, du tout.
Ouais, ça, c'est...
Là, on appelle plus ça, c'est parce que question de service essentiel, il y a zéro, zéro, néant total.
Ce que je regarde là-dedans, puis j'ai pas à prendre pour un côté ou l'autre, je pense aux personnes, comme tu disais tantôt, il y a plein de monde qui habite sur l'île de Montréal qui ont pas de véhicule parce qu'ils se fient au transport en commun.
Ça, c'est avec raison.
Là. On nous fait plein de publicité, transport en commun, l'environnement, blablabla. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, fait juste penser là au REM. Là, hein? On a mis le REM, mais le REM, il marche pas. Il y a des gens qui laissaient l'auto pour aller vers le REM, ça fonctionnait pas. Y a-tu moyen? Moi, ce que je trouve qui est plate là-dedans, j'ai pas la date exacte concernant le conflit à la STM, mais souvent dans des conflits, on regarde, la convention collective est échue depuis, écoute, il y a des mois et des mois, il y a pas quelqu'un d'intelligent dans les bureaux de direction pour dire quand la convention, là, elle achève, là, de dire, gars, on peut-tu commencer à avoir des rencontres, à regarder un peu, tu sais, à travailler un peu en amont, pas quand le feu est pogné.
Exactement.
Parce qu'après ça, c'est les usagers qui en paie le prix. Là, je regardais QS qui demande eux autres au gouvernement du Québec, c'est d'aller dans le fond des générations puis donner de l'argent à STM. Est-ce que vous allez faire la même chose avec Québec, avec Sherbrooke, avec Trois-Rivières? Toutes les fois qu'il y a un conflit, parce que les services de transport en commun, là, ça coûte cher, hein?
Oui.
Ça coûte cher.
Oui.
Si vous voulez avoir du monde, payer l'étiquette puis l'utiliser, ben, donner le service.
C'est un grave problème dans une métropole comme Montréal. Et là, bon, ben, c'est demain que le texte législatif va être déposé.
Et là, on s'aligne sur un baillon.
Oui, mais je comprends pas Québec solidaire là-dedans, mais en tout cas...
Je sais pas.
C'est parce que, normalement, Québec solidaire devrait être du côté de la population.
Ouais.
Et là, ils sont comme entre l'arbre puis l'écorce, l'impression.
Ben, c'est comme je te disais, eux, on dit, va piger, ils disent au gouvernement de la CAQ, va piger dans le fond des générations.
Ouais.
Puis donne de l'argent à STM. Mais moi, la question que je poserais aux gens de QS, c'est est-ce qu'on fait le même pattern avec la Ville de Québec, avec Sherbrooke, ou c'est parce que là, c'est Montréal?
Ah, voilà, c'est Montréal!
Tu comprends-tu,
c'est
là?
C'est ça.
Comprends-tu?
Ben oui. Québec solidaire, on sait que c'est un parti qui est très ancré à Montréal.
C'est ça. Alors, c'est pas ça qui va les aider à faire des gains.
Non, certainement pas. Hein?
Parce que c'est pas drôle, comme tu l'évoquais tantôt, pour les gens qui sont pris là-dedans, là.
Tout à fait. Je pense à la population montréalaise, là.
Ouais.
Regarde, tu as besoin de prendre l'autobus, le métro pour aller travailler, puis souvent un petit salaire, tu calcules le prix des loyers à Montréal, tu n'as pas moyen de te payer un taxi là, pour traverser la ville.
De toute façon, le service y est là. Appliquez-le.
C'est ça. Merci Jacques.
Salut.
Je salue et remercie les collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Pierre Jubinville, ainsi que Régent Turgeon et Jacques Plante. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prudence avec les systèmes de chauffage d'appoint, là, puis les barbecues, là, c'est dehors. Barbecue, puis une génératrice, ça se rentre pas dans la maison, c'est dehors. Je sais que vous êtes plusieurs dans le sud de la région, là, à manquer d'électricité encore. Dans un instant, Nicolas Bellemare sera là pour vous présenter le 5 à 7 trad et la vie dans Lanaudière avec Roselyne Miron-Pichet. Dans un tout petit moment, il sera question de médecine familiale.